Les deux sujets dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitulent « Un incendie à Saint-Jean-de-Maurienne en 1791 » et le deuxième « Une rixe à l'Hôtel du Soleil en 1858 ». Commençons par « Un incendie à Saint-Jean-de-Maurienne en 1791 ». Dans la nuit du 3 au 4 juin 1791, sur environ minuit et demi, un incendie se déclare dans le quartier des Trois-Rois à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est le quartier de la Charité, en face du champ de foire. Le secrétaire de l'administration de la maison de charité de la ville, M. Costamagne, en fait deux jours après une sommaire apprise, un compte-rendu, à l'intendant de la province de Maurienne, M. Cazel à De Selve. Il dit « Le feu s'étant communiqué aux appartements dépendants de ce quartier de la ville à la rue des Bourses, a fait des progrès si rapides que non seulement il a réduit en cendres une partie de ce quartier, mais encore, s'étant communiqué au couvert du sieur Borger, dépendant du quartier voisin, l'a également réduit en cendres pour sa plus grande partie. Cet incendie, qui a été des plus violents, aurait sans doute fait des progrès plus étendus sans les prompts secours qui ont été apportés par les préposés aux divers genres d'administration de la ville et à l'activité des citoyens à les donner. Le sinistre a détruit un grand nombre de bâtiments. Le constat est accablant. Le malheur a occasionné au sujet des pertes considérables. Quelques-uns ont perdu leurs bâtiments en entier, d'autres leurs meubles et denrées aussi en entier. Les uns, par défaut de faculté, sont dans l'impossibilité de rebâtir. D'autres ne pourront le faire qu'en y confondant une partie de leurs avoirs. D'autres sont réduits à la misère. Et d'autres, enfin, ne pourront jamais se relever des pertes qu'ils ont essuyées. Le conseil municipal se réunit le 6 juin 1791 au son de la cloche et à la manière accoutumée. Sont présents noble et spectacle Jean-Baptiste Alexandre Martin, syndic, ainsi que les conseillers municipaux Victor Amédée Rivol, Saturnin Guille, noble Joseph Martin de la Motte, spectable Jean-Baptiste Arnaud, Jacques-Philippe Salomon, Jacques Larive, Catherine Callier et Urbain Albrieux. On évoque l'incendie, les malheurs des sinistrés et on décide que les personnes qui ont participé au secours doivent être dédommagées. L'Assemblée délibère de faire mandat à Honeste Charles Constantin, aubergiste, de la somme de 3 livres et 8 sols pour dépenses de bouche faites chez lui la nuit des 4 au 5 du courant par les 4 charpentiers et 6 autres surveillants à l'occasion de l'incendie. Décide de payer en outre aux charpentiers Jacques Portaz, Joseph Sibelin, Pierre Collet et Jean-Baptiste Mollard, chacun 30 sols, pour avoir veillé la susdite nuit, et de payer en outre aux soldats Birose de la compagnie Sarbe, qui est actuellement en détachement en cette ville, lequel a considérablement travaillé pendant la nuit de l'incendie, la somme de 10 livres. Enfin, 6 livres sont versés à ceux qui ont été commandés à tenir l'eau samedi passé, tant le jour que la nuit dans la ville. L'unique ressource qu'il reste à ses habitants dans cette triste situation où cet incendie les a réduits est d'avoir recours aux bontés de Sa Majesté, qui est la source inépuisable de charité envers ses fidèles sujets. Les sinistrés adressent donc une supplique à l'intendant de la province de Maurienne, M. Cazel à De Selve, pour qu'il commette le notaire qui lui plaira pour procéder en contradictoire d'un intervenant pour le fisc à sommaire apprise sur le montant des pertes que les sujets ont faites dans cet incendie. Le notaire royal Jean-Baptiste Turbille, secrétaire de la ville, est commis pour procéder à la sommaire le 8 juin 1791. Le 1er août, il choisit l'intervenant pour le fisc. J'ai fait appeler par devant moi dans mon étude, le jour susdit, le sieur Nicolas Savoie, natif de la paroisse de Valoire et habitant de cette ville, pour faire les fonctions d'intervenant pour le fisc, duquel j'ai reçu préalablement le serment qu'il a prêté sur les saintes écritures entre mes mains touchées, par lequel, ensuite de dues remontrances sur l'importance, dit celui, il a promis de s'acquitter de sa charge en homme de bien. Ils se rendent alors jusqu'au quartier qui a été incendié pour visiter les masures restantes de ladite incendie, en foi de quoi le notaire adressait son procès-verbal. Le notaire Turbil commence la procédure par une enquête afin de connaître les circonstances du drame. Deux témoins sont convoqués par le représentant du fisc le 3 août. Le premier se nomme Alexandre, fils d'Anaïs Balmain, natif de cette ville. Interrogé sur les généraux, c'est-à-dire sur son état civil, il déclare être âgé d'environ 30 ans, d'être substitut procureur au bailliage de cette ville, et quoique fils de famille, ça veut dire qu'il habite encore, qu'il dépend encore de ses parents, avoir pour 100 pistoles et plus de biens. Il n'est ni parent, allié, créancier, débiteur, ni domestique, d'aucun de ceux qui ont souffert de cet incendie. Prête serment sur les saintes écritures, ensuite de dues remontrances sur l'importance, dit celui, et sur les peines divines et humaines qu'encourent ceux qui jurent le faux et promet de dire la vérité. Interrogé par le notaire, s'il est informé que dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier, un des quartiers de cette ville a été presque entièrement incendié, s'il sait comment cet incendie a été occasionné et où le feu a commencé, et interpellé de déclarer toutes les circonstances dont il peut être instruit à cet égard, il répond. Sur environ les 11 heures du soir de la nuit du 3e juin dernier, passant par la rue des Bourses pour me retirer chez moi et apercevant une odeur de brûlé, je me tournai du côté du quartier des Trois-Rois où, voyant une lumière considérable, j'entrai dans la cour de l'auberge où je ne fus pas plus tôt arrivé que je vis par une fenêtre du premier étage des bâtiments de la maison de charité une flamme qui poussoit avec toute l'impétuosité d'un feu enragé. Je me mis incontinent à crier au secours. Et en étant d'abord arrivé, on a travaillé à en diminuer le progrès. Cependant, par la voracité des flammes, ont été réduits en cendres nombre d'habitants, de bâtiments et de couverts. Et il ajoute : je ne saurais vous dire comment cet incendie a été occasionné, ni par qui, ni par où le feu a pris, sauf que j'ai ouï dire publiquement que le perruquier David avait une servante que l'on disait était devenue folle et qui au roi communiquait le feu dans la chambre où elle couchait. Le deuxième témoin interrogé est Jean-Georges Opinel. Natif de la paroisse d'Albi-le-Vieux, âgé d'environ 55 ans, il possède 6000 livres de biens et il est négociant à Saint-Jean-de-Maurienne. Après avoir prêté serment, il répond. Sur environ minuit, de la nuit du 3 au 4 juin dernier, ayant entendu grand bruit dans la rue des Bourses dans laquelle j'ai mon logement et incontinent ouï sonner le tocsin, je me levai d'un bond m'étant mis à la fenêtre pour m'instruire de ce que c'était, je vis que de l'autre côté de la rue, au quartier des Trois-Rois, il y avait un feu horrible qui faisait des progrès immenses malgré le grand secours qu'on y observait. Mon habitation étant vis-à-vis de ce quartier et n'étant séparée que par la largeur de la rue, les flammes menaçant même de se communiquer à mon couvert, je me hâtais de le défendre et tâchais de mettre mes meubles à l'abri. J'ai ouï dire que le feu s'était communiqué par la chambre dépendante des bâtiments de la maison de charité qu'occupait la servante du perruquier David que l'on disait être devenue folle. Lecture est faite aux témoins de leur déposition. Ils répondent « J'y persiste et ne veux rien y changer, ajouter ni diminuer. » Et ils ont signé avec le sieur Savoie, intervenant pour le fisc, et le notaire Turbil. Lors de sa visite du sinistre, le notaire Turbil a constaté que l'incendie a détruit des biens chez 12 propriétaires, ainsi qu'à la maison de charité. Il convoque les victimes pour recueillir leurs déclarations. Il rencontre d'abord les seigneurs administrateurs de la maison de charité, en la personne du sieur Pierre Personnaz, un des chanoines de l'église cathédrale, et de spectable Jean-Baptiste Alexandre Martin, avocat au Sénat de Savoie. L'administration de la maison de charité était confiée à deux chanoines, députés par le vénérable chapitre, assistés des trois syndics de la ville, un pour la noblesse, deux de la bourgeoisie, ainsi qu'à trois conseillers municipaux. Ils devaient s'assembler chaque année, la Semaine Sainte, par devant le révérendissime et seigneur évêque, ou en son absence, par devant son vicaire général, pour dresser le rôle des pauvres pour la distribution des revenus du legs, et ce, sans y commettre abus ni connivence. Il prêtait en général le serment entre les mains de l'évêque ou de son vicaire général. Les deux administrateurs déclarent que, par l'incendie arrivé en cette ville dans la nuit du 3 au 4 juin dernier, la maison de charité a perdu les bâtiments qu'elle y possède en la rue des Bourses, où nombre des chambres ont été entièrement consumées par les flammes, ainsi que tout le couvert, et que la plus grande partie des murs ont été calcinés. Les 12 propriétaires déposent ensuite. Laurent Bourget, chirurgien, déclare la perte entière des couverts de ses bâtiments et de quelques meubles d'une valeur d'environ 100 livres. Sa famille se compose de lui, sa femme et de deux enfants. Jean-Pierre Didier déclare que ses bâtiments, qui consistent en plusieurs chambres, ainsi que les couverts, ont été réduits en cendres. Lui, il a une femme et un jeune enfant. Barthélemy de Cluny dit « J'ai perdu les couverts entiers de mon bâtiment, un plancher, deux portes, une partie des murs, avec encore des meubles, pour une valeur de 30 livres. Il a une femme et trois enfants. » Jean-Guy a perdu les couverts de ses bâtiments et une partie de ses murs a été calcinée. Il a une femme et quatre enfants. François Beauvanier déclare la perte de tous ses meubles, effets et denrées, pour une valeur d'environ 2000 livres, outre 120 livres argent effectif et tous ses titres. Sa famille se compose de lui, sa femme et de deux enfants. Illettré, il signe d'une croix. Charles-Antoine Constantin explique qu'une partie du couvert de ses bâtiments a été réduite en cendres, et qu'une partie du mur mitoyen a été calcinée. Il a une femme et cinq enfants. Jean-François David a perdu tous ses meubles, linge, effets et marchandises. Il estime le tout à 1500 livres. Il a une femme et un enfant. Barthélemy Jouette estime à plus de 100 livres ses meubles et habillements brûlés. Il a une femme et un enfant, lui non plus ne sait pas écrire. Michel Roux déclare que ses meubles et habillements valent 200 livres. Il a une femme et quatre enfants. Pierre Favre a perdu, tant en argent effectif qu'en meubles et habillements, la valeur de 60 livres. Raymondine Boispierre, veuve Sacco qui vit avec un enfant, déclare avoir perdu pour plus de 150 livres de meubles, effets et habillements. Illettrée, elle fait sa marque. Claudine Gontier, enfin célibataire, estime à 80 livres ses meubles, effets, habillements et perdus dans le sinistre. Le notaire doit alors s'assurer de la fidélité des déclarations faites par tous les ci-devant nommés qui ont souffert de ladite incendie. Sur les pertes par eux essuyées, tant en meubles, effets que bâtiments, comme encore des facultés et situations d'un chacun. Pour cela, il fait appeler par devant lui Jean-François Rosa, maître apothicaire, âgé de 48 ans, qui possède 6000 livres de biens, et le sieur Esprit Dominique Favier, âgé de 38 ans environ, marchand épicier droguiste, qui possède 10000 livres de biens, tous deux de la ville. Le notaire reçoit le serment des deux témoins. Il leur lit alors le contenu des déclarations respectives de ceux qui ont souffert de l'incendie, et il leur demande ce qu'ils en pensent. Ils répondent « Connaissant assez particulièrement tous ceux qui ont eu le malheur d'être incendiés dans la nuit du 3 au 4 juin dernier, dans le quartier des Trois Rois de cette ville, nous vous assurons que, suivant la connaissance que nous avons de l'état, situation et faculté de chacun, joint à la notoriété, leurs dites déclarations paraissent assez fidèles, tant sur la valeur des meubles et effets par eux perdus que sur le nombre de personnes qui composent leur famille. Nous ne pouvons au reste donner aucun des susdits particuliers pour aisés, pas même commodes, étant tous des gens qui ne subsistent que par leur métier, et dans l'impossibilité de se relever des pertes qu'ils ont essuyées, sans quelque secours, sachant qu'ils ne possèdent aucun fonds, ou du moins en si petite quantité, et déjà hypothéqués, qu'il leur sera impossible à les utiliser pour se secourir. Il reste au commissaire à faire constater la valeur des bâtiments incendiés et de la dépense pour les rebâtir. Il prend pour expert d'office Jacques Portaz, maître maçon et charpentier, natif de cette ville, et Jean-François Pudolia, aussi maître maçon, natif du Milanais et habitant dans la ville. Le notaire reçoit leur serment et demande s'ils connaissent le quartier qui a brûlé, de quelle valeur pouvaient être les bâtiments incendiés et à quoi peut arriver la dépense pour les rétablir. Les experts répondent qu'il faut 700 livres, déblaiement des gravats compris, pour rétablir la maison de charité, 420 livres pour la maison de Laurent Bourget, 2000 pour le bâtiment de Jean-Pierre Didier, 200 livres pour Barthélemy de Cluny, 400 livres pour Jean Guy et 200 livres pour les bâtiments de Charles-Antoine Constantin. La gravité de cette catastrophe aura pour haute conséquence d'alerter les autorités sur les risques d'incendie dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Le conseil municipal se réunit le 15 juin suivant et décide de faire la visite de tous les bâtiments de la ville et dans lesquels il peut y avoir quelques réparations à faire afin d'éviter la communication du feu en cas d'incendie, de même que pour vérifier les couverts qui avancent sur les rues et desquels peut se faire la communication aux voisins, afin de déterminer ce qu'on est dans le cas de faire diminuer. Pour cela, on demande à deux experts, Pierre Piton et Jacques Porta, de faire cette visite en compagnie de Messire Bertrand pour la rue Borieux, de Messire Petit pour la rue Saint-Antoine, de Messire Albrieux pour la Grande Rue, et ses dépendances, et enfin de M. de la Motte pour les rues de Beauregard et de l'Orme. Pendant les secours, on a constaté un manque important de sceaux. Il est délibéré d'en acquérir. De plus, attendu la nécessité urgente où l'on est en cette ville, surtout dans le cas d'incendie, d'avoir des sceaux de cuir, d'autant plus qu'on pourrait s'en procurer à un prix honnête, il a été décidé de faire une cueillette, une quête chez tous les particuliers. L'argent récolté, ajouté à celui qu'on avait recueilli auparavant pour réparer le marbre du maître-autel de l'église paroissiale, permettra d'acheter autant de sceaux en cuir qu'on pourra. Messieurs Rostin et Calier sont commis pour faire cette cueillette. Le deuxième sujet concerne une rixe à l'Hôtel du Soleil en 1858. Le 7 décembre 1858, une rixe a lieu en soirée à l'Hôtel du Soleil à Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a des blessés. Rapidement avertis, les carabiniers arrivent sur place, arrêtent certains protagonistes et mettent en place des barrages à l'entrée de la ville pour saisir ceux qui se sont enfuis. Le juge d'instruction Antoine Copier, prévenu par les carabiniers, est chargé de l'enquête. Il décide de commencer ses investigations en allant visiter la principale victime, Claude Crochon, qui a reçu plusieurs coups de couteau. Le juge se rend en compagnie de l'avocat fiscal Georges Gabet et de Messire Aimé Sambuis, substitut greffier, à l'Hôtel du Soleil, où le blessé est alité. Après l'avoir succinctement interrogé, le juge l'engage à porter plainte. « Je me nomme Claude, fils de François Crochon. Je suis marchand de vin à Montmélian. Je suis âgé de 35 ans. Hier au soir, vers 6 heures, je soupais tranquillement avec mon domestique, Claude Martin, et un crocheteur. Le crocheteur, c'est celui qui crochette les serrures, ou celui qui porte des fardeaux en s'aidant d'un crochet, donc d'un crocheteur nommé Romain Girard, dans la salle à boire de l'Hôtel du Soleil. Au cours de la conversation, sans me rappeler à quel propos, je dis à mon domestique, t'es una fiuta, tu es une bourrique. Certains témoins diront, tu es une sacrée bourrique. Alors cette remarque est faite par Claude Crochon à son domestique lorsqu'il tente de lui expliquer qu'il doit partir le lendemain seul avec trois bêtes, très tôt, heure de départ que le domestique trouve trop matinale. Plusieurs Piémontais, qui buvaient à une autre table, ont, à ce qu'il paraît, cru que le mot que je disais d'une manière tout à fait innocente était à leur adresse. Ils se sont levés de leur table et se sont rués sur moi et sur Girard qui se trouvait du même côté de la table que moi. Le maître d'hôtel, qui se tenait aussi à l'extrémité du même banc que moi, est venu à notre secours, ainsi que mon domestique et un nommé Jacques Bernard, qui soupait tranquillement avec sa femme à une table à côté de nous. Une lutte s'est alors engagée et j'ai reçu 5 coups de couteau dans les reins et un sur la tête. Je ne saurais reconnaître celui qui m'a frappé, mais un dénommé Louis Tronel, qui était assis à ce moment devant le poêle, ainsi que les personnes que je vais vous indiquer, les reconnaîtront assez. Claude Crochon cite Dominique Anselmetti, le maître d'hôtel, sa femme, Marie Cugnot, une domestique, Dominique Savarin, domestique de l'hôtel, Jacques Bernard et sa femme Polyphème Pélissier. Il termine sa déposition en ajoutant que son domestique et Jacques Bernard ont également reçu un coup de couteau. Les magistrats descendent alors dans la salle à boire de l'hôtel où a eu lieu l'événement, pour, disent-ils, mieux nous édifier et comprendre la déposition du plaignant ainsi que celle des témoins qui seront appelés. Le greffier enregistre la description de la salle et en fait un croquis. La salle forme un carré long, c'est-à-dire un rectangle, avec 3 grandes tables munies de bancs. À gauche, en entrant, parallèle à l'entrée, une grande table où se trouvaient les victimes et le maître d'hôtel. Puis une autre table, puis une grande fenêtre, ensuite le poêle et la deuxième grande table qui est perpendiculaire à la première où buvaient 5 Piémontais. Enfin, au milieu de la pièce, en face de la porte d'entrée, la troisième table où dînait à une extrémité Jacques Bernard, employé du télégraphe, et sa femme, et à l'autre extrémité, 2 autres Piémontais. Le juge fait alors appeler le docteur Maurice Feu Joseph Ignace Petit, médecin de Saint-Jean-de-Maurienne, âgé de 42 ans, qui a déjà soigné les victimes la veille, quelques minutes après l'accident, pour qu'il les examine à nouveau et qu'il fasse un rapport détaillé sur toutes les blessures. Après avoir été assermenté, il promet de le faire en homme d'honneur et de probité. Il visite Claude Crochon en premier. Crochon a reçu 6 blessures, une à la tête, côté droit dans la région pariétale. Elle est de 2 à 3 cm d'étendue sur un demi-centimètre de largeur. Elle n'interfère que les téguments et n'a pas lésé l'os. Le sang qui s'en est écoulé est en moyenne quantité. 4 blessures sont à la région inférieure des reins. 2 à droite, dont une à 1 pouce de la colonne vertébrale, et 2 à gauche de la colonne, du dehors en dedans, d'un centimètre et demi dans tous les sens. Le muscle droit et long a été traversé et une veine d'un certain volume coupée, d'où une assez notable quantité de sang s'est écoulée, saignant pendant plusieurs heures. La deuxième blessure à droite est vers le bord de la hanche, seule la peau a été traversée. Les 2 blessures à gauche n'ont traversé que la peau. La 6e blessure située à la jambe droite se situe vers le milieu du tégument qui recouvre le tibia du côté droit et ne consiste qu'en une écorchure épidermique. Des 6 blessures susénoncées, les 5 premières ont été faites avec un instrument tranchant et aigu tel qu'un couteau et la 6e a été produite par un coup contondant tel qu'un soulier ou voire même par le frottement de la partie blessée contre un corps dur tel qu'une table ou un banc. J'ai dit que la blessure avait été faite par un couteau parce que la forme des plaies l'indiquait clairement et que d'autre part, les vêtements qui m'ont été remis, vêtements composés d'une chemise, d'un caleçon et d'un pantalon, les 2 premiers en toile de pays, le 3e en drap de laine, examinés avec soin, portaient la trace distincte du passage de l'instrument vulnérant désigné. Le docteur Petit examine ensuite Jacques Bernard. Il constate une blessure au côté droit, près de la tête, de la tête près de la bosse occipito-pariétale droite, dirigée de haut en bas, n'intéressant que le cuir chevelu, ayant 2 cm de longueur sur 1,5 de largeur. Elle a été faite par un instrument tranchant tel qu'un couteau. Cette plaie a laissé écouler une quantité de sang proportionnée à son étendue et aucun vaisseau important n'a été touché. Mais on constate également une luxation de la dernière phalange du droit annulaire de la main droite. Cette luxation peut provenir soit d'une chute au moment de l'attaque, soit d'un effort pendant la lutte, tant en parant qu'en frappant. Claude Martin ne présente qu'une plaie superficielle de la bosse frontale gauche qui n'a pas produit la section complète de la peau. Le docteur Petit dépose son rapport le 11 décembre devant le juge Albert Picolet d'Hermillon, qui remplace le juge d'instruction Antoine Copier, occupé sur une autre affaire. 10 jours plus tard, le juge adjoint Picolet d'Hermillon, qui remplace toujours son confrère, afin de vérifier le déroulement de l'incendie, convoque dans son bureau l'aubergiste Jean-Dominique Anselmetti et l'épouse de Jacques Bernard, Polyphème Pélissier. L'entretien se déroule en présence du substitut greffier Charles Ducol, qui assure le rôle de secrétaire. Jean-Dominique Anselmetti, dûment assermenté, déclaré âgé de 47 ans, aubergiste de profession, il est né et habite à Saint-Jean, et il possède environ 30 000 livres de biens. Il raconte la même chose que Claude Crochon, mais lui donne le nom de deux des Piémontais. L'un s'appelait Massara, le premier agresseur, l'autre Giano. Il ne connaît pas les autres, mais explique qu'un des cinq était plutôt grand, avait une barbe rouge au menton et portait un chapeau presque blanc entouré de velours noir. Un autre, d'une taille élevée, avec une petite barbe blonde, a frappé fort pendant la lutte. Le juge lui présente les pièces à conviction retrouvées sur les lieux, parmi lesquelles il reconnaît le couteau poignard qui se trouvait sur la table où étaient Giano et Massara, ainsi que le chapeau blanc. Polyphème Pélissier, assermentée et interrogée à son tour, explique qu'elle et son mari étaient allés souper à l'auberge. Ils étaient installés au bout d'une table où se trouvaient à l'autre bout deux ouvriers piémontais. 5 piémontais dînaient à la deuxième table et Claude Crochon, son valet, et Romain Girard à la troisième. Elle n'a pas entendu prononcer la phrase qui a causé la bagarre. Elle précise que ce sont les deux ouvriers piémontais qui ont attaqué les premiers, et que l'un, vêtu d'une blouse bleue, tenait sa main droite sous sa blouse comme s'il cachait quelque chose. En fait, le couteau avec lequel il a blessé son mari. Elle ajoute qu'elle le reconnaîtrait, ainsi que l'autre qui avait un paletot jaune. Un autre témoin, Louis Trosset, négociant, âgé de 56 ans, né et domicilié à Saint-Colomban-des-Villars, qui se chauffait auprès du feu et qui n'a pas pris part à la lutte, déclare lui aussi ne pas avoir entendu d'injure, mais avoir bien vu 3 piémontais avec un couteau à la main. Lui aussi déclare que s'il les voyait, il les reconnaîtrait parfaitement. Le juge lui demande, dès la fin de l'interrogatoire, de l'accompagner à la prison où se trouvent Charles Massara et Giano, qui ont été arrêtés devant l'auberge par les carabiniers. Le juge fait installer dans une pièce en ligne Massara, au milieu de 5 autres individus ayant à peu près la même taille et les mêmes vêtements. Massara choisit la 3e place à droite. Le juge fait alors entrer le témoin qu'il a assermenté et il lui demande si parmi les personnes présentes, il se trouve une de celles désignées dans sa déposition. Après avoir bien examiné tous les individus, il désigne avec certitude Massara. Le juge fait ensuite la même chose pour le deuxième inculpé, Giano, qui a choisi la 2e place à droite. Tronel le reconnaît immédiatement, tant à sa figure qu'à ses vêtements, précisant que c'est lui qui a attaqué le premier et qui est la cause de tout ce qui est arrivé. Un deuxième témoin, qui fait partie des agressés, Jacques Bernard, journalier de 22 ans qui travaille au chemin de fer, les identifiera de la même façon. Le juge décide alors d'interroger Charles Massara. Il a donc été emprisonné par les carabiniers à la sortie de l'auberge. Il a d'abord cherché à s'enfuir, mais sur les conseils d'un autre piémontais nommé Michel Ciaberto, il s'arrête et se laisse saisir au corps. Il déclare être journalier, travaillant au chemin de fer. Né à Oleggia, il est âgé de 18 ans. Lorsque le juge lui demande s'il sait pourquoi il est en prison, il répond que c'est à cause de la bagarre qui a eu lieu à l'auberge du Soleil. Il reconnaît qu'il buvait dans la salle avec 5 autres piémontais. Il a bien pris part à la bagarre, il est même allé prendre un tabouret dans la cuisine qu'il a lancé dans la salle sur les combattants. Il affirme d'abord ne connaître aucun des protagonistes, de n'avoir vu ni couteau, ni blessure, avant de revenir sur sa réponse et d'expliquer que celui qui se trouvait à la même table que lui, mais à l'autre extrémité, se nommerait Merlavea. C'est un homme grand, aux dents longues, à la figure rouge, et qui écrivait au moment où a commencé la lutte. Massara reconnaît son propre couteau parmi les pièces à conviction. Le juge, afin de conserver l'identité du couteau, scelle dessus une légende avec de la cire rouge qui porte son sceau. Massara identifie un deuxième couteau, maculé de sang, comme appartenant au piémontais qui était assis à côté de lui. Un mineur piémontais nommé Michel Franco, homme de 38 ans, de haute taille et sans barbe, gravé de la petite vérole qui a été arrêté avec deux de ses compagnons qui travaillent au chemin de fer, donc arrêté au pont d'Arvan vers 9h du soir par les carabiniers, explique au juge qui poursuit ses interrogatoires qu'il ne comprend pas pourquoi il est là. Il explique qu'il est venu vers 8h le matin toucher un complément de sa paye d'ouvrier mineur chez l'entrepreneur Martinetti. Il est alors reparti pour Saint-Julien, puis pour Saint-Michel, où il est arrivé vers midi, où il est descendu à l'hôtel du Cheval Blanc. Il en est reparti avec ses deux camarades vers 8h du soir pour regagner Saint-Jean, où il loge près de chez son employeur, tandis que les deux autres habitent chez Valeno, près de la station du chemin de fer. Deux autres piémontais sont reçus par le juge dans son étude et interrogés. Le premier, Antoine Marchetti, n'a pas participé à la rixe, mais il était présent et reconnaît que lorsque le mot « bourrique » a été prononcé, il a essayé de calmer Charles Massara en lui expliquant que cette formule ne leur était pas destinée, mais au domestique de Claude Crochon. Il n'a rien voulu savoir et s'est jeté sur le commerçant. Marchetti s'est enfui lorsque la bagarre a commencé, mais il se souvient que Giano avait son couteau planté dans la table. Lors de la séance d'identification à la prison, qui suit l'entretien, il essaye de dédouaner le dénommé Franco, qui n'a pas, selon lui, participé à la rixe. Mais son témoignage sera infirmé par François Savarin, le domestique de Crochon, qui lui reconnaît bien Franco et il sera reconnu aussi par plusieurs autres témoins. La femme de l'aubergiste Anselmetti, qui se nomme Thérèse Belmain, ajoute quelques détails assez accablants sur ce qui s'est passé. Sa description de l'incident concorde avec ce qu'ont raconté tous les autres témoins. Mais elle ajoute qu'avant que ne commence la lutte, elle avait remarqué que les ouvriers piémontais s'amusaient à planter leurs couteaux dans la table et celui qui avait un paletot jaune-marron, Charles Massara, lui faisait l'effet de vouloir chercher querelle, précisant que dans le courant de la journée, il avait dit « Maintenant que nous avons mangé notre paye, il faut faire les assassins, ce que tous les piémontais approuvèrent. » Elle identifie aussi Franco et Charles Massara comme ayant participé à la bagarre. Le nommé Franco, donc arrêté le 8 décembre à Saint-Michel, pose problème au juge. Il ne connaît pas son prénom. D'après ses déclarations, il ne pouvait pas se trouver sur les lieux lors de la risque. Pourtant, certains témoins confirment cette réponse, alors que d'autres disent le contraire. Alors, afin d'essayer de répondre à cette question, le juge reconvoque certains témoins et décide de faire interroger le propriétaire de l'hôtel du Cheval Blanc à Saint-Michel par son collègue local, Antoine Delauscourt. L'hôtelier se nomme Jean-François Laubé. Il est âgé de 33 ans. Lorsque le juge lui demande si le 6 décembre dernier, il n'aurait point eu à dîner trois piémontais, s'il sait leur nom et à quelle heure ils sont partis de chez lui, il répond qu'il ne se souvient pas de la date, mais qu'au début de décembre dernier, la veille d'une fête ou d'un dimanche, quatre piémontais sont venus dîner dans son auberge. Il y en avait deux qui étaient habillés en velours noir ou brun foncé, et l'un d'eux, soit le plus petit, avait une dent de devant qui lui manquait. Il ne connaît pas leur nom, il sait seulement qu'ils étaient des ouvriers mineurs qui avaient pris l'entreprise pour couper le pas du roc. Deux sont revenus le lendemain boire des bouteilles. Il manquait le petit, à qui il manque une dent, car il était parti pour Modane, et l'autre qui avait, selon leur dire, été mis en prison parce qu'il n'avait pas ses papiers. Le juge n'est pas plus avancé. Il réalise alors, en relisant le rapport des carabiniers, que ces derniers ont, le soir de la bagarre, amené trois piémontais qu'ils ont arrêtés au pont d'Arvan, à l'auberge du Soleil, vers 11h du soir. Tout le monde était couché dans l'auberge, il tambourine à la porte, la maîtresse de maison vient ouvrir, on lui demande d'apporter de la lumière et on lui présente les trois individus. Elle n'en reconnaît aucun dans le rapport, alors que lors de sa confrontation, elle dira le contraire. Le juge convoque plusieurs autres témoins, tant entrepreneurs que travailleurs qui travaillent au chemin de fer, au pas du roc, mais il n'apporte aucun élément nouveau quant à la culpabilité ou non du dit Franco. Cela permet seulement de savoir qu'il se prénomme Louis. Le juge décide alors de convoquer à nouveau l'aubergiste, Thérèse Belmain. Il lui fait remarquer la contradiction qui existe dans ses déclarations. Elle en explique immédiatement les raisons. « Lorsque le brigadier des carabiniers a conduit chez moi trois individus, j'étais très ému et à moitié endormi. C'est pour ce motif que j'ai déclaré ne reconnaître aucun des individus qui m'ont été présentés. » Alors que dans les prisons, j'ai parfaitement reconnu Franco. Le brigadier des carabiniers royaux, Jean-Albert Titi, reconnaît qu'elle était à moitié endormie et encore tout émue de la scène qui venait de se passer chez elle, et qu'il était tard. Lorsque le juge lui demande sur quelle référence il avait arrêté ses piémontais, le carabinier dit « c'est parce qu'un paysan les avait dénoncés ». Et il ajoute « Louis Franco est un mauvais sujet » qui a déjà été arrêté plusieurs fois. Le juge connaît maintenant les coupables, mais à part Massara et Franco qui sont en prison, les autres ayant été relâchés à la suite du premier témoignage de l'aubergiste sont repartis immédiatement en Italie. La chambre du conseil du tribunal provincial de Maurienne, aux personnes de Joseph Dubois, président, Joseph Sétier et Antoine Copier, juge, rend son verdict le 17 mars 1859. Charles Massara est condamné à de la prison. Deux de ses complices, Giano et Merlo, sont condamnés par contumace. Franco et un nommé Vignolo sont relaxés, car bien qu'il résulte de la procédure qu'ils ont pris part à la bagarre, il est établi qu'ils n'ont fait usage d'aucune arme et rien ne prouve que leur coopération ait été agressive. Alors cette procédure judiciaire présente de nombreux intérêts. Elle montre que les employés au chemin de fer, qui arrivent à cette époque en Maurienne et à Saint-Jean entre autres, sont en grande majorité des Piémontais. Les Savoyards rechignent à ces travaux, mais en même temps cela crée des tensions entre les communautés, car les Savoyards ont le sentiment que les Piémontais leur volent leur travail. La procédure met aussi en évidence les méfaits de l'alcoolisme et le fait que celui-ci est aggravé les jours de paye. Les médecins qui font ces constatations avaient fait les mêmes lors des épis de choléra, montrant que le nombre de cas augmentait le lendemain des jours de paye, car les ouvriers s'agglutinaient dans les cabarets ce jour-là, ce qui augmentait la promiscuité et donc les risques de contamination. Enfin, cette population ouvrière, composée d'hommes rudes, souvent célibataires, comportait malheureusement quelques éléments de mauvaise vie qui exacerbaient un sentiment d'insécurité. Les condamnations étaient d'ailleurs volontiers relayées par la presse. Et puis n'oublions pas que l'incident se situe 2 ans avant l'annexion de la Savoie à la France et que certains exploitent aussi le sentiment anti-piémontais à des fins électorales. La dernière chose qu'on peut remarquer, c'est que ce qui différencie les populations savoyardes et piémontaises, ça ne semble pas être la langue, puisque tout le monde se comprend. Il ne semble pas qu'on ait fait appel à des traducteurs pour les interrogatoires. Ce qui les différencie, c'est 1) le port de la barbe, apparemment très répandu chez les Piémontais ou les Bergamasques, parce qu'en fait, il y avait aussi des Bergamasques dans le Lot. Et c'est surtout leur façon de s'habiller. Chaque témoin décrit assez précisément la façon dont s'habillent les Piémontais, façon souvent très colorée, qui semble contraster avec la tenue des Mauriennais. Sur ce, je vous remercie de votre attention.